Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Eh bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble 90.8. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de la crise des vocations dans le milieu de l'enseignement et donc nous sommes avec Florian Stocker, secrétaire départemental du syndicat SNES-FSU et professeur de SVT au lycée Galilée de Vienne, avec Sandrine Conte. Emery, professeur de français à l'INSPE, et avec Charlotte Arnaud, qui est étudiante en première année de master MEF lettres modernes. Bonjour à vous.
Bonsoir.
Bonjour.
Bonjour.
L'école, je veux qu'à la rentrée prochaine, on puisse remplacer du jour au lendemain les profs dans les classes des élèves.
On est sur le fait qu'aujourd'hui, le métier n'attire plus assez pour avoir assez de candidats, pour avoir assez d'enseignants, pour à la fois, quand il y en a un qui est malade, pouvoir automatiquement le remplacer.
Qu'on réforme le lycée professionnel, indispensable pour être juste avec nos jeunes et les amener vers l'emploi,
ça fait
la
beaucoup
formation.
De chantiers. Beaucoup de chantiers.
Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de chantiers parce qu'on a des immenses ambitions.
Crise dans l'éducation nationale, épisode 3719. Mais rassurez-vous, le gouvernement a la solution. Remplacement automatique à la moindre absence de professeurs, revalorisation salariale pour tous les enseignants, davantage de mixité sociale dans les écoles et objectif 100% d'insertion professionnelle pour les lycéens.
Voilà. le décor est un peu planté et donc j'ai envie de vous poser une question un peu générale. Pour commencer, c'est comment expliquez-vous un peu les différentes crises qui paraissent un peu systémiques dans le monde de l'enseignement? Est-ce que vous voulez commencer, Florian?
Oui, on peut commencer. Alors, le sujet est long, donc il ne faut pas hésiter à m'arrêter parce que je peux en parler pendant des heures.
Pas de souci.
Effectivement, le problème qu'on a depuis quelques années, c'est que les crises s'accumulent. Donc première chose qu'on reconnaît de nos gouvernants, c'est effectivement la volonté d'aller à marche forcée, hein. Ça va très bien avec le nom du parti En Marche, tel qu'il s'appelait à l'époque. Effectivement, on fait face à des sollicitations politiques permanentes, et pour nous la crise vient aussi du fait qu'il y a un affichage politique qui est fait, avec plein de réformes, et derrière il n'y a pas de vraie consultation avec les organisations syndicales par exemple, ce qui fait qu'au final on n'est pas d'abord sur est-ce que ça marche, quel est le souci des élèves, comment nous on vit les choses, comment on pense l'éducation nationale, mais on va appliquer un programme qui a une bonne apparence entre guillemets, qui a le goût du bon sens a priori au premier abord, mais en fait on ne se pose pas les questions de qu'est-ce que ça implique sur le terrain quoi. Et au final c'est vrai que nous ça se traduit, voilà, on le redit, par une souffrance à la fois pour les personnels mais aussi avant tout par un dysfonctionnement d'un service public à destination des élèves dans un but d'émancipation de ces élèves. Donc nous on se pose de vraies questions sur comment on fait pour construire un vrai projet d'école avec un gouvernement qui, a priori, n'est pas très apte au dialogue social pour le moment.
Quand vous dites qu'il n'y a pas de vraie consultation auprès des personnes qui sont sur le terrain, c'est qu'il y en a mais qu'elles ne sont pas écoutées ou qu'il n'y en a pas du tout ?
En fait, on nous invite très souvent, que ce soit au niveau ministériel ou académique ou départemental, donc on va consulter les personnels sur certaines décisions, mais au final... on est entendu mais pas écouté, c'est-à-dire que souvent voilà, quand on a un bloc unitaire de toutes les organisations syndicales sur certains projets, on pourrait éventuellement évoquer le soi-disant choc des savoirs que nous promet Gabriel Attal. Pour nous c'est surtout un choc austéritaire, c'est-à-dire un manque de moyens, c'est un choc aussi dans la vision profonde de l'école qu'on a, qui est censée être faite pour l'émancipation de tous les élèves et pas seulement d'une partie. Donc voilà, nous quand on dit non là-dessus, le gouvernement passe en force, au mépris par exemple du Conseil supérieur de l'éducation qui a dit non sur les nouvelles réformes de programme, sur la nouvelle organisation. Voilà, le gouvernement passe en force.
Je vous entends rigoler limite sur le choc des savoirs, Sandrine.
Oui, je rebondis aussi sur ce que mon collègue vient de dire. Tout simplement, au niveau du choc des savoirs, c'est très bien, c'est joli comme formule, mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Et je repars aussi sur l'idée qu'il n'y a pas de consultation, puisque dans les réseaux des INSPE en général, nous sommes depuis peu On doit mettre en place de nouvelles maquettes pour les prévisions des nouveaux concours dès la licence, mais à aucun moment nous n'avons été vraiment sollicités, auditionnés, et on nous impose de mettre quelque chose en place sans nous en donner concrètement les moyens. Ce qui est vraiment difficile, puisque nous ne sommes pas opposés à ce que le concours puisse avoir lieu en licence, que ce soit pour le premier degré et ou le second degré, mais nous aimerions que l'on puisse prendre le temps de réfléchir pour mettre en place des solutions qui puissent être pérennes, puisque je peux rappeler qu'il y a 3 ou 4 ans, nous avons déjà fait, sous le même gouvernement, des gros changements.
Est-ce que vous pouvez rappeler ces gros changements il y a 3-4 ans ?
Il y a 3-4 ans, bien tout simplement, pendant la période Covid, il y a eu plusieurs réformes de programmes, notamment pour le lycée, mais il y a eu aussi une réforme des concours, puisque les concours sont passés en Master 2. Et donc les étudiants actuellement, encore cette année, doivent faire un stage. Alors ils peuvent être PRAC ou CA2D, c'est-à-dire qu'ils peuvent être en stage d'observation ou en stage contractuel, où ils ont une classe en responsabilité. Ils doivent en même temps passer leur master MEF et ils doivent en même temps préparer et passer le concours. Ce matin encore, j'ai eu une étudiante de master de MEF qui a eu un souci de santé, hein, qui s'est effondré en classe de fatigue.
Un burn-out, quoi.
Je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais en tout cas, elle a eu un malaise.
Oui, on entend bien qu'on ne peut pas tout faire tout en même temps.
Et oui, et oui.
Et donc, il y a encore eu des changements cette année, il me semble, sur ces concours.
Alors, on vient d'avoir les premières pistes de réflexion pour mettre en place les nouveaux concours du CRPE pour 2015. À partir, certains seront en licence, d'autres pas. Et donc, on va devoir gérer de nouveau des nouvelles maquettes. Et nous aussi, nous sommes complètement épuisés, puisqu'on essaye, en tant que formateur, et de préparer au mieux nos étudiants à devenir enseignants. Mais c'est compliqué.
Qu'est-ce que tu en penses, Charlotte, sur cette organisation ?
C'est vrai qu'au niveau de l'ambiance générale, en classe, du coup, côté INSPE, on sent bien que les étudiants sont épuisés. Il y a vraiment... Il y a des étudiants qui sont pas loin de l'abandon parce qu'il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup d'attendus. Et en fait, même ces attendus-là principaux, on ne les comprend pas dû à ces réformes-là parce que c'est tout le temps en train de changer. Il y a des professeurs qui ne peuvent pas vraiment nous les donner puisque ça a encore changé au niveau... c'est côté UFR, du coup, côté lettres modernes. On ne comprend pas encore tous les attendus et finalement... On répond pas, on ne sait pas en fait ce qu'on attend de nous pour le concours finalement. Et oui, il y a une démotivation sur ce point-là. Et puis ensuite, ce que je remarque, c'est que on a des stages à effectuer en établissement scolaire. Donc on voit bien que déjà pour nos professeurs, c'est assez compliqué de faire le lien entre la fac et l'établissement. Il faut que ça se passe bien avec nos tuteurs, il faut que ça se passe bien avec nos classes. Tout ça est très cadré. Et finalement, gérer ça pour les enseignants, on essaie de leur faire des retours régulièrement, mais gérer ça c'est assez compliqué. Faire tous ces liens-là, en fait, c'est assez faramineux. Et finalement, on a l'impression, en termes de proportion, qu'on n'a pas suffisamment de stages et de terrain pour avoir cette légitimité-là devant les élèves. La question de la légitimité-là, c'est une question qui revient beaucoup parmi nous, parmi les étudiants. Quand on est face au public de collégiens ou même lycéens, parce qu'on ne les a pas beaucoup vus, parce que... c'est difficile de s'exprimer devant eux, de parler devant eux. Finalement, on en revient à cette question-là. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire aux élèves ? Quelle est la posture que l'on doit avoir ? Et toutes ces questions-là, Donc, l'INSPE, elle nous aide avec toute cette didactique-là à la théoriser et à essayer de la mettre en pratique. Mais c'est quand même très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de stages, finalement... En M1, il y a un mois et 2 semaines, il me semble. deux semaines, il me semble. Et ensuite, bon, il y a le M2 qui est censé rattraper un petit peu. Mais voilà, finalement, c'est très court.
En M2, il y a combien de temps de stage ?
Alors, c'est quasiment toute l'année scolaire avec 7 heures hebdomadaires à peu près.
Ok. Ouais,
pas toute l'année scolaire, mais on va dire d'octobre à juillet.
Est-ce que tout ça explique le manque d'attractivité dans la formation ? Parce que donc j'ai vu que les effectifs du master avaient baissé de 17% entre 2021 et 2022.
Oui, je confirme.
Est-ce que tout ce marasme explique ce manque d'attractivité ou il y a d'autres explications ?
Je pense que mon collègue va confirmer, mais non, il y a d'autres problématiques. C'est-à-dire si le gouvernement pense qu'en mettant le concours en licence, ça va relancer l'attractivité, il oublie que ce n'est pas forcément la cause du manque d'attractivité que nous voyons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup aussi d'enseignants qui sont déjà des enseignants aguerris, qui sont en train de se dire « qu'est-ce que je fais encore devant mes classes ? Quel sens l'enseignement que je prodigue a ?» Et je pense qu'il y a quand même une grosse, grosse difficulté à pouvoir tenir le rythme à tous les niveaux, puisqu'il y a aussi des programmes en collège, en primaire, en lycée qui changent et qui vont rechanger. Donc c'est épuisant à la fin.
Vous en pensez quoi, Florian ?
Bah, je rebondirai effectivement sur ce qu'a dit la collègue, c'est qu'effectivement il y a ce problème d'épuisement, on va dire, des collègues face aux multiples réformes. Alors d'une certaine manière, ironiquement, on pourrait presque dire qu'on nous prépare bien en MEF, c'est qu'on nous apprend, on va dire, à travailler trop et toujours plus, on va dire, et c'est déjà un des premiers risques psychosociaux, on peut dire, hein. On a beaucoup de collègues, de jeunes collègues qui d'ailleurs en étant néo-titulaires, donc qui viennent d'avoir le concours, voilà, qui font des burn-out ou qui peuvent démissionner parce que tout simplement ils se rendent compte qu'en fait on nous demande toujours plus de travail. Donc ça pose un peu la question des conditions de travail. Juste avant de parler des conditions de travail, je voulais revenir d'abord sur effectivement la question de la position du concours, puisque le problème de l'attractivité, en fait, pour pouvoir passer un concours enseignant, nous on demande en fait de la visibilité, c'est-à-dire que quand on change des réformes chaque année sur quand est-ce qu'on va passer le concours ou pas, vous êtes étudiant, vous n'avez pas le droit aux bourses pendant un nombre indéfini d'années, vous, des fois vous vous ratez, des fois vous essayez, déjà vous avez besoin d'un peu de sécurité, de vous dire bon bah le repère, est-ce que c'est un bac plus 5, est-ce que c'est un bac plus 3, comment je le fais. Donc si chaque année chaque nouveau ministre veut mettre sa marque en changeant la maquette, en fait c'est très difficile déjà pour se projeter. Autre indicateur très mauvais signe, c'est le fait de baisser le nombre de postes au concours. On a déjà vu ça depuis les années 2015, que dès qu'on a beaucoup de postes au concours, bah bizarrement, il y a quelque sorte un appel d'air. Donc en fait, les gens se disent « Ah, on recrute des profs, c'est important, il faut y aller », alors qu'aujourd'hui, on ferme le nombre de postes et bizarrement, si on sait qu'on a peu de chance d'avoir le concours parce qu'il y a peu de postes, bah, on ne va pas faire 5 ans d'études pour à la fin qu'on nous dise « Ah bah désolé, en fait, mais du coup, on ne vous garde pas ». Donc c'est un investissement et on a besoin pour ça de formation encadrante et puis d'assurance sur la stabilité des postes au concours. Ce qui implique d'ailleurs aussi un autre fait, c'est que il y a aussi la question de comment on parle des profs. C'est-à-dire aujourd'hui, pour dire que le métier est attractif, aujourd'hui, moi, des élèves me disent non, je vais pas faire prof. Alors qu'il y a 10 ans, on nous disait, on avait toujours 2-3 élèves par classe, ils disaient, moi, je veux faire prof. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose la question. Enfin, même des fois, ça arrive, des élèves, ils disent, moi, je suis content, moi, j'ai réussi ma vie, je suis professeur agrégé, je suis très heureux. Et puis, eux, ils me disent, oh, monsieur, quand même, vous êtes prof, vous auriez pu faire autre chose. Donc, je pense qu'il y a une manière aussi de présenter le prof, au lieu que ce soit comme il y a 20 ans ou 30 ans, un métier respectable, où c'était vu comme une fierté d'être devenir professeur, on était le garant d'un savoir, c'est pas n'importe qui, quoi. Aujourd'hui, on a tendance, sous Macron, à penser que voilà, nous sommes en gros juste destinés à faire du remplacement de courte durée.
On en parlera bien en profondeur de cette question-là. Et donc, pour revenir au concours, j'avais cru voir aussi qu'il y a un faible taux de réussite au concours. Alors qu'on a besoin de profs, comment expliquer tout ça ?
Alors, il y a le recrutement déjà. Au niveau des Master MEF, on a vraiment de moins en moins d'étudiants intéressés par ce métier. Et forcément, on a un niveau qui peut aussi baisser par rapport aux personnes qui viennent dans le Master MEF. C'est-à-dire que nous, on recrute, l'université est ouverte, mais... comme mon collègue le disait, il y en a d'autres qui vont se destiner à d'autres métiers que l'enseignement. Voilà.
Par exemple, à l'INSPE, vos effectifs, ils ne sont pas complets ?
Les effectifs, en tout cas pour ma discipline en lettres, ont fortement baissé. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans, j'avais à peu près 22-24 professeur stagiaire en M1. Cette année, vous êtes 7 sur Grenoble. Je ne parle pas de Chambéry, hein, qui est le même, qui appartient aussi à l'INSP, Académie de Grenoble. Je parle que de l'antenne de Grenoble et on a une baisse du recrutement.
Et vous, pour votre discipline, vous savez un peu ou pas?
Alors j'ai pu l'observer parce que j'ai aussi fait passer des leçons, on appelle ça, c'est-à-dire des entraînements à l'oral à la fac de Strasbourg. Et c'est vrai que clairement, alors le responsable du parcours m'avait montré, enfin voilà, parce qu'on s'était étonné du fait qu'il y avait fait un plus grand monde, il a observé une division par deux ou trois, on va dire, du nombre de postulants voilà, au CAPES, effectivement, dans l'université. Quoi. Donc clairement, c'est vrai qu'il y a un très mauvais signal sur le fait que voilà, ça n'attire plus autant.
Et on parlait aussi des difficultés sur le terrain. Effectivement, Charlotte évoquait des difficultés pour les stages. Nous essayons, avec l'aide des inspecteurs, en tout cas dans ma discipline, d'avoir des stages qui sont vraiment à côté de l'INSP pour éviter la fatigue et les frais engagés par les étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et effectivement, on a beaucoup de mal à trouver des lieux de stage pour justement entrer dans le terrain et valider le master. Et l'autre problématique, cela est actuellement en place, c'est avec les Master 2 qui sont admissibles au concours, qui vont passer l'admission bientôt, hein, à partir, pour le français, à partir de 8 juin sur le groupe que j'ai. Et c'est pareil, il va falloir qu'ils payent pour aller passer leur oral, leurs oraux, hein, puisqu'il y a 2 €. Et ils vont devoir aussi payer les lieux de stage quand ils sont un peu éloignés. Donc en fait, s'ils n'ont pas un lieu de stage qui est sur Grenoble même, on ne peut pas forcément les aider à avoir un lieu de stage ou les aider dans les frais engagés pour aller bah, justement s'ils vont à Galilée. Hein. La route Galilée-Grenoble se paye et la fatigue aussi. Donc c'est compliqué.
Pourquoi c'est compliqué de trouver des stages pour tout le monde aux alentours ?
Très bonne question. Des motivations aussi des enseignants qui peuvent les accueillir. Peut-être manque de postes avec justement toutes les réformes qui viennent d'être mises en place depuis septembre. Je parle du pacte par exemple. Autre difficulté aussi des chefs d'établissement et des enseignants qui sont épuisés et qui ne se sentent pas aptes à prendre ce travail en plus qui est aussi très mal rémunéré pour ceux qui sont des formateurs académiques ou des tuteurs académiques et qui acceptent des étudiants dans leur classe.
Est-ce que ça marche comment ? C'est l'enseignant qui est volontaire à accueillir ou non un stagiaire, c'est ça ?
C'est plus compliqué que ça. Ils sont sollicités par le rectorat, par les inspecteurs, en lien avec nous. On réfléchit, on essaye de les orienter, de travailler. Mais là, je me rappelle que pour cette année, pour les MEF Master 1, on a eu énormément de problèmes. Je téléphonais tous les jours aux inspecteurs pour voir où on en était au niveau des lieux de stage. Parce qu'il y avait un moment où ils devaient vraiment commencer à entrer en stage pour pouvoir faire le travail qui était attendu par ailleurs. Et ça tombait au compte-gouttes. Il fallait qu'on sollicite un plus grand nombre de personnes. Et c'est pareil, les établissements, on va les solliciter pour une chose, pour une autre chose, pour une autre chose. Au bout d'un moment, les établissements eux-mêmes sont pas loin du burn-out. Quand je dis établissement, c'est-à-dire tous les personnels qui composent l'établissement, y compris les chefs d'établissement.
Vous, Charlotte, vous avez votre stage loin de l'INSP ?
Moi, je suis sur Mélan. Okay. Donc c'est vrai que par moments c'est assez fatigant. Les premières années où j'étais pas véhiculée, c'était très compliqué de me rendre sur le campus. Parce que par exemple, le lundi matin, je travaille au collège. Et l'après-midi, il faudrait que je sois sur le campus, qui me laisse parfois 30 minutes, le temps de me déplacer. C'est un petit peu rapide. Après, pour rebondir sur les stages, j'ai pu travailler donc avec la documentaliste de mon établissement et effectivement en fait on lui a également proposé d'être tutrice d'un documentaliste et ce qui s'est passé c'est que elle a été mise au courant au dernier moment vraiment mise un petit peu au porte-à-faux quoi, elle s'était pas du tout prévue dans le cadre de ses cours Et donc elle a pas pu accepter parce que c'est une grande charge de travail. Et en fait, finalement, les délais sont très courts. Et mes camarades, par exemple, ont eu le premier contact avec leur tuteur pour commencer leur stage le soir, donc le dimanche, les premiers contacts pour le lundi 6h. Donc finalement, tout se fait vraiment, vraiment. Enfin, je vois bien que tout le monde fait comme il peut, mais c'est très compliqué, quoi, même pour les étudiants, pour les professeurs. C'est assez compliqué.
Et donc, l'année prochaine va pas s'arranger parce que j'ai cru comprendre que. On sait déjà qu'il y aura beaucoup de postes vacants, notamment en maths, lettres et allemand, si j'en crois la presse. Comment faire pour essayer d'arranger toute cette situation à l'avenir ?
C'est certainement en prenant le temps d'y réfléchir sereinement déjà. Parce que du coup, la technique du gouvernement, c'est de se dire on va avancer le concours à Bac plus 3, comme ça, en gros, on va récupérer techniquement les effectifs de ceux qui passent les concours qui auraient dû le faire en M2. Donc en gros, on va gratter 2 ans, ils vont tout de suite passer le concours en équivalent L3. Et donc en fait, on va gagner peut-être 1 an, ou peut-être qu'avec un peu de chance, on fera les concours à plein. Alors bien sûr, ça dépend des disciplines, parce que effectivement sur les maths particulièrement, on peut ressentir la concurrence, effectivement, voilà, des gens qui ont des diplômes en maths élevés, la concurrence, par exemple, avec des métiers dans l'ingénierie, où ils peuvent avoir des salaires qui sont littéralement le double voilà, d'un prof débutant, sans forcément, en plus, voilà, les contraintes, on va dire, parce qu'il ne faut pas oublier que prof, certes, c'est une vocation, il y a des petits avantages, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de contraintes. Il y a, voilà, ça c'est un premier élément qui explique le déficit. Deuxième chose, il y a aussi l'impensé, en fait, qui est tout simplement des conditions de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une gestion purement budgétaire et technocratique, on va dire, voilà, il faut des moyens humains. Les moyens, c'est des équivalents temps plein, c'est pas des profs, c'est pas des, voilà, des gens qui sont devant des êtres humains. Donc, du coup, on optimise ces ressources. Et le problème de faire ça, c'est qu'au final, bah, on oublie que, alors si je reprends les chiffres, par exemple, dans les études que nous, alors ça vient même pas du syndicat, ça vient en fait du ministère lui-même, on voyait que le temps de travail d'un professeur, c'était en moyenne 43 heures et que ça allait en gros de 35 heures à 65 heures par semaine. Donc la réputation qu'on nous fait des fois facilement est quand même assez ironique. Et conséquence de ça, que fait le ministère juste après ? Il nous propose le pacte, parce que du coup, on va pouvoir nous proposer des heures supplémentaires encore.
Oui, le
encore.
Pacte enseignant, là.
Voilà. Donc bizarrement, ça n'a pas très bien marché, genre 15 à 20% maximum. Ceux qui l'ont pris des fois, bah, c'est les gens les plus précarisés, soit des débuts de carrière, soit des mères célibataires avec plusieurs enfants. Enfin, au final...
Quand elles peuvent.
Voilà, quand elles peuvent. Donc souvent, c'est en fait les personnes sous contrainte qui, vraiment, n'ont pas fait ça parce qu'ils n'aiment pas leurs élèves ou quoi que ce soit, mais c'est parce que, juste en fait, ben, à un moment, il faut quand même qu'on dorme.
Vous pouvez rappeler ce que c'est le pacte pour nos auditeurs
Le pacte, voilà, donc pour nous, c'est un peu voilà, c'est le sketch habituel, c'est les profs ne travaillent pas assez, donc on va leur proposer des heures supplémentaires. Alors, à plusieurs objectifs, c'est soit pour faire du remplacement de courte durée, donc sous prétexte que, pareil, les profs, ces vilains, sont trop souvent absents, et donc c'est à cause d'eux que les élèves n'ont pas de trous. On posera d'ailleurs peut-être la question, puisqu'en final, le remplacement de courte durée, c'est peut-être 10% des absences totales, puisque souvent, c'est des absences de longue durée, ce qui implique, par exemple, des congés maternité. Un congé maternité, il paraît que c'est pas très difficile à anticiper. Donc, ça veut dire que ça pose la question, où sont les titulaires de zones de remplacement qui, en gros, passent le concours aussi. Donc, en fait, où sont les profs qu'on n'a pas réussi à recruter, qui pourraient boucher, effectivement, les heures massives qui sont plutôt du remplacement de longue durée. Et donc, c'est là où, en fait, on a un aveuglement complet sur la question de, en fait, quel est le plan pour rendre ce métier réellement attractif. Et pour ça, ça passe à la fois par la revalorisation salariale par le point d'indice, c'est-à-dire, vu qu'on est fonctionnaire, en gros, c'est le salaire des profs, et non pas par des primes, puisque le pacte est une prime. Oui. Tu en fais plus, je donne une prime. Donc, pour rappel, ça compte pas dans votre retraite ni pour la sécurité sociale, ce qui est quand même un peu embêtant. Et en plus, on ne pose jamais la question voilà, des conditions de travail. Or, aujourd'hui, on est clairement dans une situation d'épuisement professionnel pour la majorité des collègues qui veulent bien faire, en fait, qui ont une vocation à être prof et à être dans des classes, voilà, devant des élèves. Et donc, si on ne répond pas à cette question voilà, des conditions de travail et de la revalorisation, on ne répondra jamais à la question de l'attractivité.
Et puis, pour anticiper les remplacements, j'ai appris ça aujourd'hui, que l'éducation nationale, c'est le premier employeur de France. Pour ordre d'idée, il y a 1,2 million de personnel et 800 000 enseignants. Et j'avais appris qu'il n'y a pas de suivi RH.
Alors en vrai, si, on en a à peu près un ou deux par académie, mais donc vous imaginez que voilà, ça
parce que c'est ça qui pourrait faire anticiper les remplacements, entre autres, non?
Alors notamment, en fait, le vrai problème, c'est d'abord qu'on n'a pas de personnes à mettre devant. Alors il y a aussi une politique qui est de trouver des personnels contractuels, c'est-à-dire qu'au lieu de passer le concours, on va dire, bon, et ben du coup, vous pouvez faire un contrat, donc bien sûr, vous êtes en plus bien moins payé. Des fois, on a même des astuces, on ne va pas vous payer pendant les vacances. Enfin, c'est-à-dire que des fois, on fait des petits contrats, voilà. Enfin, il y a une forme de précarisation du métier. D'autant plus les contractuels ont un autre problème, c'est que souvent, malgré les défauts éventuels qu'on pouvait reprocher aux formations, elles ont le mérite d'exister. Alors que les contractuels, souvent, ils ont tout et pour tout, 3 jours de formation et puis un site internet en ligne ou consulter des vidéos pendant ce temps-là. Comme ils ne sont pas protégés par le statut du fonctionnaire, qui définit quand on a le CAPES, c'est 18 heures devant élève, quand c'est agrégé, c'est 15 heures. Et ben du coup, on a aussi des chefs d'établissement ou le rectorat qui va proposer des contrats qui vont aller au-delà. Donc par exemple, on va donner un contractuel 24 heures avec des classes à bac en première année sans formation et on va s'étonner que bizarrement, le contractuel ne tient pas pendant toute l'année et va craquer en cours de route. Donc c'est-à-dire qu'il y a une logique aussi de... On veut toujours optimiser, voilà, sur la ligne budgétaire, ça a l'air intelligent, mais dans la pratique, en fait, c'est catastrophique.
J'aimerais revenir sur 2 points par rapport à ça. Ça reprend le choc des savoirs aussi. Ça veut dire qu'un professeur qui change comme ça de classe, qui va faire 2 heures comme ça pour remplacer un collègue, est capable de construire en 5 minutes un cours cohérent et qui a du sens. Or, si on veut que nos élèves éprouvent du plaisir et envie d'aller en classe, il faut qu'ils y trouvent aussi du sens. Et si on ne nous laisse pas le temps de construire correctement nos cours, on ne peut pas donner du sens au travail. Et on retrouve ça dans tous les travails qui sont en lien avec l'aide à la personne aussi. On peut parler des infirmières. C'est la même modalité que celle que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire c'est purement quelque chose de purement financier, avec une rentabilité derrière. Or, on travaille avec des êtres humains. Vous posiez la question de la DRH, on en a très peu. Je rajouterai aussi le médecin du travail. Il y en a encore moins. Et donc, si vous êtes une personne handicapée ou ayant une RQTH, il est très, très difficile de faire appliquer, justement... les prescriptions des médecins et de prendre rendez-vous avec le médecin du travail. Donc tout ça fait que les conditions de travail dans lesquelles nous sommes ne permettent pas de faire un travail qui soit bien pensé et on revient au choc des savoirs. Voilà, tout simplement, puisque si on veut que les choses soient bien pensées, il faut nous laisser le temps de regarder les besoins de nos élèves, de les prendre en compte, de construire nos cours. Et là, on est dans un mode de rapidité, de rythme, qui ne le permet absolument pas et qui ne permet que l'épuisement, sans construire quelque chose de solide. Et je dirais aussi que, par rapport à ce qu'on disait, dans les conditions de travail, ce que je vois avec ceux qui sont admissibles, ils sont en train de faire leur vœu de mutation. Et en fait, ils sont extrêmement effrayés de savoir où ils vont être l'année prochaine pour leur première année en tant qu'enseignant. Donc les 3/4 vont aller certainement à Créteil. Et d'autres sont paxés ou mariés et veulent faire des enfants. Et si par la meilleure des chances, ils sont dans l'Académie de Grenoble, rien ne les empêche. J'ai déjà vécu ça il y a 2 ans avec une étudiante. Rien ne les empêche d'être en Ardèche, de demander l'Ardèche et de se retrouver à Thonon. Donc là, je vais parvenir sur ce que préconise M. Attal pour qu'il y ait un petit peu plus de bébés. Mais là, j'ai conseillé à ma jeune collègue il faut faire un bébé ou conduire. Voilà. Ouais. Donc la vie personnelle ne peut pas avoir lieu.
Virus raging about. still grateful for every dance, every sunset, dinner, and moment of romance. This chapter was far from expected, but you know how the universe is all connected. That's when we turned towards our studio and found new ways for our musical flow.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8 pour discuter un peu de la crise des vocations dans le milieu de l'enseignement. J'aimerais revenir sur les salaires. On va y aller là-dessus. Hein. Comment vous ressentez, est-ce que vous ressentez un manque de reconnaissance à travers le salaire ?
Aujourd'hui, vu qu'on est dans une société qui quand même un peu a une logique un petit peu capitaliste, ça veut dire que, bon voilà, on nous vend, Macron disait, voilà, il faut vouloir être milliardaire. Alors moi, je trouve ça personnellement immoral de vouloir être milliardaire, mais du coup, ça montre que en tout cas, voilà, les valeurs de l'argent font partie de la reconnaissance sociale aujourd'hui. Donc, bien sûr, il faut d'abord assurer un salaire, on va dire, qui est proportionnel aux responsabilités. Enfin, moi, ça me paraît pas illogique, mais surtout à la hauteur des compétences travaillées. Je rappelle que les enseignants, voilà, ont un bac plus 5. Ils passent un concours qui est plutôt exigeant. Donc, on peut se poser la question. Voilà, la symbolique de la rémunération est quand même importante pour montrer, voilà, qu'ils ont un réel statut social et une importance. On rappelle aujourd'hui que dans les principes républicains, si on est républicain, parce qu'ils se prétendent toujours républicains, on a le souci à tout prix que l'école fonctionne, puisqu'on donne un savoir émancipateur, et donc comment imaginer que ce ne soit pas la première priorité de la notion, si on veut que tous les élèves aient accès à ce savoir, puisque pour qu'ils deviennent citoyens, bah, il faut que les profs soient formés, il faut que les profs aient des qualifications, il faut qu'on ait les meilleurs d'entre nous, j'ai envie de dire, qui veuillent transmettre ce savoir. Donc se pose une réelle question démocratique à travers, déjà, la question de la rémunération. Et deuxièmement, on pourrait parler de, admettons qu'on ne veuille pas dépenser trop parce que ça coûte cher et qu'on veut juste assurer un salaire, on va dire, de vie digne et correct pour les enseignants, et bien en fait, le problème, c'est que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enseignants qui commencent, quand ils partent en région parisienne ou quand ils partent dans des endroits, dans lesquels ils doivent, par exemple, aux abords de Haute-Savoie, on a des enseignants qui, tout simplement, ont des difficultés pour se loger et qui, donc, sont, en fait, littéralement dans la pauvreté, alors qu'ils sont dans les moments peut-être les plus difficiles de la carrière, avec beaucoup de travail, découvrir un nouvel environnement, loin de la famille, tout ça. Ils ont, en plus, des problématiques financières au point qu'on est obligé d'avoir des enseignants qui, des fois, doivent demander des aides sociales pour les accompagner. Donc, c'est quand même tragique qu'aujourd'hui, dans un pays aussi riche que le nôtre, voilà, les enseignants bac plus 5 ne puissent pas des fois se louer un appartement parce que c'est trop cher.
Vous avez des chiffres un peu sur la moyenne des salaires ?
Alors aujourd'hui, on a une forme de revalorisation. Alors c'est un petit peu vicieux, on va dire, parce que les néo-titulaires, donc ceux qui viennent d'avoir le concours, s'approchent de 2000 euros.
Donc brut ou net ?
Alors plutôt net. Par contre, la différence, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de primes dedans. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ça enlève. Il y a près de 40% de primes maintenant dans les débuts de carrière, ce qui fait qu'en gros, on a des profs qui aujourd'hui, voilà, ont très peu d'argent qui va investir justement dans les retraites. Donc ensuite, on va pas s'étonner qu'ils nous proposent une nouvelle réforme des retraites d'ici quelques années ou qu'ils ne contribuent pas à la sécurité sociale. Donc, c'est quand même tragique. En fait, c'est la même logique permanente de sous-financer la sécurité sociale et les retraites. Deuxième problème, c'est que les stagiaires n'ont pas accès à, ces, à ce salaire, puisque la promesse était faite pour ceux qui sont à 2000 euros. Donc les stagiaires sont exclus de ça, donc ça veut dire qu'on nous annonce, et d'ailleurs sur les nouvelles maquettes dont personne n'a encore vent de la réalité, puisque les réunions ministérielles ont été annulées, on nous prévoit que justement les nouveaux stagiaires qui seraient entre la licence 3 et qui ont eu le concours et le niveau master, enfin jusqu'à Bac plus 2, donc tout le temps de leur stage, serait payé littéralement au lance-pierre, c'est-à-dire qu'ils auraient à peine une paye d'un AED, ce qui est déjà pour nous, je rappelle qu'on dénonce toujours le salaire trop petit des AED, donc ça c'est une autre difficulté. Et dernière difficulté, c'est que les collègues plus expérimentés ne voient pas en fait leur salaire augmenter, ils ont un peu lissé en gros cette progression salariale qui était la notion de carrière, puisqu'en gros on avait la garantie avant quand on était fonctionnaire dans les années 80 que vous allez faire carrière dans l'éducation par exemple, donc c'est-à-dire que votre salaire allait augmenter régulièrement, ce qui a un effet dissuasif justement pour aller chercher ailleurs et la concurrence. Et ce qui est aussi garanti, du coup, un, de probité, ça veut dire que vous dites, bon voilà, j'ai assez pour gagner ma vie, donc je vois pas pourquoi j'irais justement faire un autre job ou faire autre chose. Mmh. Et deuxièmement, c'était une garantie de garder les meilleurs d'entre nous, on va dire, de les fidéliser pour pas avoir envie de faire un autre métier. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit avec ce lissage de la fonction publique, c'est un, qu'on continue de détruire les retraites de la sécurité sociale, deux, qu'on se sert des stagiaires comme des bouche-trous pour économiser des sous, et trois, qu'on passe sur une fonction publique où le fonctionnaire est vu comme un élément, c'était un peu la logique du pacte d'ailleurs, c'est on va plus vous orienter vers la tâche, c'est plus vous êtes attaché parce que votre personne est qualifiée et peut rendre un service, c'est juste, bah voilà, vous allez faire 3 ans prof, puis ensuite vous allez faire autre chose parce qu'on veut que ça tourne. Mais sauf que si on veut que ça tourne, bah, je suis désolé, mais moi en 10 ans, j'ai beaucoup progressé dans ma capacité à accompagner des élèves et chaque année je m'améliore. Donc en fait, fidéliser les profs, les payer un peu plus que ce qu'ils méritent, c'est assurer en fait justement un service public de qualité.
Ouais, ce salaire, est-ce que ça serait pas aussi ouais, du coup un facteur de non-attractivité de l'emploi et donc une dégradation de la qualité de l'enseignement?
Oui, je pense que c'est une des problématiques fondamentales. Et c'est pour ça que quand on dit on va changer le concours et le mettre en licence, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas que ça soit le problème de l'attractivité, de changer le concours qui se situe actuellement en Master 2, qui avant était en Master 1, et que là on va le mettre en licence. Je ne pense pas que c'est la base du problème. La base du problème, c'est aussi les salaires. C'est-à-dire que les enseignants qui ont mon âge ont accepté au début de leur carrière et d'être moins payés parce que justement, ils savaient qu'il y aurait cette progressivité. Et puis, il y a eu un gel des salaires. Et donc, même les professeurs qui sont anciens se disent mais pourquoi je continue à être dans cette vocation, à faire beaucoup d'heures supplémentaires, bénévoles, non rémunérées, puisque c'est un métier qui est en lien avec l'éducation, avec les personnes. Donc il y a vraiment cette vocation qui fait qu'on est là pour les élèves et pour travailler avec eux, pour les faire progresser. On va nous dire qu'il faut travailler avec des classes ayant des besoins particuliers, très hétérogènes. Les enseignants, dans l'ensemble, sont d'accord pour travailler ainsi, mais il faut leur donner les moyens financiers et logistiques pour le faire. Et puis aussi les former. Donc je repars sur autre chose aussi, c'est qu'avec toutes les nouvelles décisions qui ont été faites, notamment avoir un professeur devant chaque classe, eh bien du coup, il y a aussi beaucoup de formations qui sont tout au long de la vie de l'enseignant, comme vous le disiez tout à l'heure, qui fait qu'on progresse tout au long de notre carrière, puisque nos élèves changent, la société change, les outils qu'on utilise changent, et qu'il faut qu'on continue à progresser, à s'adapter. Et la recherche aussi nous montre d'autres outils qu'on peut utiliser, adapter à nos classes. Et en fait, eh bien, rien ne nous emmène vers ça, ni nos salaires, ni le temps, ni l'attractivité du coup que le métier d'enseignant peut avoir, puisque comme vous le soignez, on devient des sortes de robots. Hein, on doit occuper une classe parce qu'il n'y a pas de prof. Voilà.
C'est un sujet entre étudiants, le salaire.
Oui, c'est vrai qu'on en parle un petit peu. Après, Je pense qu'avec les stages, ce dont on s'est rendu le plus compte, c'était surtout qu'on savait déjà qu'on ne faisait pas ça pour l'argent, que c'était vraiment une vocation et qu'on voulait vraiment ce travail avec les élèves, ce travail avec l'humain, cette transmission du savoir. Mais c'est vrai que là, en plus du fait qu'on se rende compte qu'il y ait ce manque de reconnaissance, ne serait-ce que des élèves envers les enseignants, ça c'est vraiment le constat qu'on voit en classe, hein. C'est pas du tout ce qu'on s'était imaginé quand on est rentré en master. On s'était pas forcément imaginé que être face, enfin voilà, cette confrontation là avec les élèves, il y a beaucoup de c'est très complexe en fait. Il y a beaucoup de violence maintenant dans les classes, si je puis dire. Et en fait, on s'attendait pas vraiment à cet élan parfois de certains élèves, d'autant de violence en fait au sein d'une classe. Et donc voilà, c'est vrai que la question du salaire, maintenant on y repense un petit peu, on se dit bon, on voulait bien faire un peu l'impasse sur le fait qu'on serait très bien payé, surtout au début, voilà, on voulait bien se dire bon bah au moins on fera un métier qu'on aime et on sera heureux dans notre carrière, mais maintenant est-ce que vraiment on va être heureux dans notre carrière, sachant qu'on a l'impression que voilà, il y a des fois un petit peu ce manque de responsabilité, je dirais, dans l'encadrement des élèves, pas des enseignements forcément, mais voilà, un manque parfois de responsabilité, peut-être d'encadrement en fait, autour des élèves, et ça se fait ressentir un petit peu. Et voilà, même moi, j'ai pu maintenant avoir mes premières confrontations avec les élèves, et c'est quand même assez violent.
Et donc, dès cette première année de master, vous avez ressenti la violence
Alors là, c'est vraiment cette année-là où j'ai pu faire mes séquences avec les élèves. Alors, j'avais de la chance, j'avais ma tutrice qui était là et qui pouvait m'aider si jamais il y avait des comportements trop déviants. Donc voilà, donc ça, c'était le point positif. Mais s'il n'y avait pas eu ma tutrice, je pense que je me serais fait bien marcher sur les pieds quand même. Par certains groupes d'élèves, par certains élèves, du fait que on soit pas reconnu, déjà parce qu'on est stagiaire, et puis le manque, ouais.
Oui, le statut qu'on a, tout à fait, hein, Charlotte, le statut qu'on a joue aussi sur l'autorité qu'on peut avoir dans une classe. Et puis, quand on est dans un établissement depuis un certain moment, on connaît un peu tous les partenaires et on oublie que le professeur ne travaille pas seul. Il travaille avec les CPE, il travaille avec les chefs d'établissement, il travaille avec l'infirmière scolaire quand il y en a. Là aussi, il y a à dire, ou le médecin scolaire. Et avec les ATSEM quand on est dans le primaire, mais aussi avec les personnes qui sont là pour aider les élèves ayant des besoins particuliers. Et du coup, notre autorité est parfois aussi mise à mal par tous les moyens d'échange avec les parents qui se sont multipliés depuis la période Covid, notamment les mails qu'on reçoit le samedi à midi et les parents qui nous disent « Quoi, les samedis soirs, vous n'avez toujours pas répondu ?» Que ce soit pour les enseignants ou les chefs d'établissement, c'est la même problématique. C'est-à-dire beaucoup d'exigences, une forme de consommation de l'école, comme si nous étions des commerçants de savoir.
Oui, parce que du coup, Charlotte parlait des élèves, vous parlez des parents aussi. Mais j'imagine que c'est un peu... En fait, c'est la société voit mal ce métier.
Alors non seulement, oui, il y a une image qui n'est pas forcément toujours très flatteuse et caricaturale qui est faite de nous. Et souvent, d'ailleurs, c'est ceux qui les voient le moins, qui en parlent le plus. C'est toujours amusant, d'ailleurs, parce que quand des gens critiquent un peu le métier enseignant, je dis « Ah, bah, il y a plein de places au concours, tu veux pas ?» Puis c'est « Ah non, mais quand même, c'est un peu difficile. Je sais pas, moi, les enfants, c'est un truc... » Donc c'est toujours assez amusant de voir un peu l'hypocrisie des gens qui sont prêts à donner les leçons, mais qui ne sont pas prêts à y aller. Donc je pense que oui, déjà, remettre le professeur être un maillon indispensable d'une société qui fonctionne, une société démocratique, ça me paraît déjà un premier point. Ça se passe notamment par la revalorisation du salaire, mais effectivement par la manière dont on en parle. Alors c'est vrai qu'on pourrait noter pendant le court séjour de Pap Ndiaye, alors il a poursuivi la politique de Macron, donc pas un bilan très satisfaisant, mais le seul, c'était peut-être à un moment de répit, on a eu 3 mois peut-être, ou 4 mois, où on a parlé bien des profs et on a fait des campagnes en disant que c'était un métier qui changeait la vie et ça faisait du bien. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être quelque chose dont on a besoin déjà pour qu'on reconsidère voilà, notre image. Deuxième chose, il y a aussi effectivement les choses qui nous ont fait beaucoup de mal, c'est les pas de vague par exemple, c'est-à-dire que c'est le côté où en fait on se retrouve justement cette violence dont parle notre étudiante, dont j'ai oublié le prénom.
Charlotte.
Je pense que c'est une violence en fait. Ben, c'est comme aujourd'hui, des fois, on va dire, ouais, mais aux urgences, des fois, il se passe, il y a des agressions, des choses comme ça, il y a des gens qui deviennent dingues face à des médecins. Mais je pense qu'en fait, c'est un peu la même chose qui se passe à l'école. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'accumulation de violences sociales, d'abandon, de livrer à nous-mêmes. Aujourd'hui, on n'est plus une équipe éducative, on est un prof livré face à ses élèves. Et on te dit, s'il y a un problème, tu dois tenir jusqu'à la fin de l'heure avec tous tes élèves. S'ils se battent, tu gères. Si il y a une heure de colle à faire, c'est un truc. Alors, il y a d'autres mesures éducatives que les heures de colle, mais en tout cas, où sont voilà, les moyens pour les CPE, pour les assistantes sociales, pour les infirmières, pour les animations de quartier, pour toute l'animation socioculturelle qui encadre la vie de l'élève. Et puis, bien sûr, ensuite, où sont les profs? Parce qu'on pourrait dire, aujourd'hui, on veut nous proposer justement du pacte et des heures sup alors qu'on est déjà épuisé. Donc ça veut dire que c'est toujours au même prof de prendre encore plus de classes, encore plus d'élèves, qui du coup aura encore moins le temps d'appeler les familles, de faire du relationnel et en fait de faire l'humain. Donc du coup en fait on se retrouve juste, ah bah du coup je vais faire des copies, je vais faire des heures sup, je vais faire des bulletins, etc. Et on n'est plus dans, bah, forcément ça pète, hein, parce que quand on fait plus d'humain et qu'on a en plus des classes les plus chargées d'Europe, je crois qu'on est à, nous on ouvre une classe en REP qui sont les plus favorisées à partir de 25 élèves. Après 25 élèves on dit c'est bon, elle est pleine, on peut ouvrir une nouvelle classe. En Europe, la moyenne, c'est 21. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de classes où elles sont à 15 ou à 16. Et nous, les classes les plus défavorisées sont à 25. On a des classes qui montent jusqu'à 32 au collège. Au lycée, c'est jusqu'à 35 ou 36. Comment on fait pour diminuer les effectifs? Bah, il faut des profs. Donc, c'est-à-dire qu'il faut rendre attractif pour justement briser la spirale de la du fait qu'on n'a pas d'attractivité. Il faut des nouveaux collègues pour pouvoir dédoubler, pour pouvoir faire des petits groupes à effectifs réduits, pour pouvoir alléger les classes. Et pour ça, bah, il faut rendre attractif. Et si on a de nouveau un jour des conditions décentes, c'est-à-dire des petites classes, des petits groupes, des sas de décompression pour dialoguer, comment ça se passe, et que l'école refonctionne à nouveau et donne espoir aussi aux élèves, parce qu'aujourd'hui, là, on voit, on nous propose, ah bah voilà, on va sanctionner ton origine sociale dès le brevet pour dire, ah bah t'as pas eu le niveau, voilà, donc c'est fini pour toi. Les élèves, déjà, qui n'ont pas toujours beaucoup d'illusions sur leurs chances de réussir à l'école quand ils viennent de milieux défavorisés, bah là, on leur dit carrément, c'est fini pour toi. Donc la violence de ça, elle est immense aussi pour ces élèves. Donc nous, on veut une école qui donne une chance. On veut croire à ce mérite républicain qu'on nous a vendu et que ce soit pas juste une façade. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens de l'ambition égalitaire.
Oui, je rajouterais même par rapport à ce que vous dites que par rapport à ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de formation des professeurs, ils sont livrés avec une classe, sauf qu'on est dans une école inclusive, mais dans une école inclusive où on va avoir des élèves qui ont des besoins particuliers sur une classe de 35 ou 36 ou 37, ça dépend du niveau de la classe. Et là, on a des élèves qui ont des besoins particuliers, ils ont besoin d'une reconnaissance, d'une AESH pour les accompagner. Il n'y aura pas d'AESH et le professeur ne sera pas formé pour le besoin de cet élève ou de ses élèves. Et donc, du coup, on se retrouve là avec une situation où on va nous demander de tenir le rythme des programmes tout en faisant monter en compétence les élèves qui ont plus de difficultés, tout en gérant le reste de la classe. Et c'est quasiment, on est livré à des paradoxes constants par rapport au savoir. On parlait des chocs de savoir. On doit transmettre des savoirs, mais on ne nous donne pas les moyens de les transmettre. Et les programmes qui sont mis en place ne correspondent pas non plus aux heures de cours dont on aurait besoin pour remplir les conditions de ces programmes. Je peux dire quelque chose de très simple. Par exemple, en classe de français, en première technologique, on a très peu d'heures de français pour les préparer à l'EAF. Or, ce sont souvent des élèves qui ont un petit peu plus de besoins, en tout cas, et pas toujours, hein, mais souvent. Et on a des programmes qu'on n'arrive pas à faire dans le laps de temps qui nous est donné, et avec les classes chargées que nous avons.
Vous disiez qu'il faut des profs, mais il en manque. Juste un petit chiffre, c'est que en 2009, le nombre de départs volontaires, c'était 364. En 2022, c'était 2836 départs. Est-ce que vous trouvez encore du sens à enseigner dans votre métier? Et comment vous trouvez encore du plaisir à justement construire vos cours?
C'est pas toujours simple, parce qu'effectivement, heureusement, il y a encore des moments où on trouve du plaisir, on a des classes formidables et tout ça, mais c'est vrai que c'est un métier qui est plein de défis. Et c'est vrai que la grande difficulté, j'ai envie de dire, ouais, effectivement, c'est Il y a la question notamment de l'accompagnement. Alors, d'ailleurs, si j'ai un petit conseil à donner aux jeunes profs, pensez à vous syndiquer. Parce qu'on est clairement un métier où d'ailleurs on ne va jamais être accompagné sur ses droits, sur ces choses comme ça. Et aujourd'hui, l'administration est incapable de répondre à ses droits. Si par exemple vous n'êtes pas payé pendant 2 mois, il faut se tourner vers le syndicat parce que appeler l'administration. Parce qu'il y a aussi un problème, on va dire, à l'intérieur des rectorats sur les personnels humains qui ne sont pas suffisamment nombreux, qualifiés, payés. Et bizarrement, ça dysfonctionne aussi. Voilà, déjà. Pensez à ça parce que c'est un élément important pour gérer les mutations, les choses comme ça. C'est un des premiers aspects. J'ai oublié votre question, pardon, je me suis perdu.
C'était le sens au métier. Et est-ce que vous trouvez encore du plaisir à enseigner?
Ouais. Alors, on trouve encore du plaisir, oui, parce que heureusement, les élèves, les jeunes, sont quand même globalement plutôt. C'est des jeunes, donc c'est cool. Mais par contre, c'est vrai que les conditions dans lesquelles on exerce sont de plus en plus difficiles. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, quasiment tous les profs sont posés la question de les démissions. Parce que c'est vrai que c'est vos chiffres qui me faisaient rebondir sur le nombre de démissions. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de profs qui lâchent ou qui disent « Avant, on pensait faire ça jusqu'à sa retraite. Aujourd'hui, on se dit « Combien de temps je vais tenir ?» Et c'est vrai qu'on se dit que, vu le niveau d'inquiétude qui est présent parmi la profession, on peut se poser la question de la pertinence des réformes qui sont annoncées, où on va encore plus aggraver les conditions de travail en pressurisant les collègues avec des coûts budgétaires, en augmentant le temps de travail, en rajoutant des missions supplémentaires. Et en fait, on va dans une spirale infernale où on va littéralement briser en fait les enseignants de bonne volonté. Et ça se traduit d'ailleurs par une attaque un peu sournoise sur le statut de la fonction publique, puisque pendant qu'on parle du choc des savoirs, par derrière, il y a Stanislas Guérini qui a annoncé vouloir dynamiter les cadres A, B et C de la fonction publique. Donc a priori, il va nous faire un melting pot, on ne sait pas trop ce que c'est, un nouveau statut probablement de la rémunération au mérite. Enfin, on voit venir le truc un peu macroniste de la rémunération au mérite. Et à ça s'ajoute... pourquoi ça nous inquiète? Parce qu'en fait... la rémunération au mérite, justement, il faut d'abord savoir ce que c'est que le mérite. Est-ce que le mérite, c'est quoi? C'est le prof qui rend ses élèves heureux? Est-ce que c'est le prof qui a 99% de réussite au bac? Est-ce que c'est le prof qui fait un très bon contrôle continu parce qu'il met toujours 20 à ses élèves, peu importe le résultat? Est-ce que c'est le prof qui fait plein de sorties scolaires? Ou est-ce que c'est le prof qui prend du temps pour faire ses travaux pratiques? Est-ce que c'est le prof qui fait exposer? En fait, il y a plein de manières d'enseigner, et qui sera apte à juger? Donc on peut se poser la question là-dessus. Et deuxièmement, il y a la question de si le mérite c'est juste de prendre des classes en plus, c'est peut-être pas le meilleur des profs, le prof le plus intéressant, le prof qui a le temps de construire son savoir, le temps de réfléchir à la meilleure activité pédagogique, qui sera valorisé. C'est peut-être celui qui va dire « moi je prends le manuel labellisé par le ministère », comme nous le propose Gabriel Attal, on fait un manuel officiel, et on dit « nous c'est telle méthode pour apprendre le français, telle méthode pour faire les maths, et puis vous posez pas de questions ». Donc il y a une question qui est vraiment fondamentale sur est-ce que le prof, il a un concours de la fonction publique qui lui garantit d'être cadre, parce qu'il est catégorie A de la fonction publique, donc il est concepteur de son enseignement, il gère son temps libre, parce que c'est lui le spécialiste, c'est un pro, ou est-ce qu'il devient un simple exécutant, j'applique des méthodes pensées par un mec dans un bureau, dont on n'a aucune idée s'il a déjà été dans une classe, si ça vaut le coup, si ça marche, si ça marche pas.
Et sachant que d'une classe à l'autre, il faut revoir la méthode appliquée du manuel, puisqu'on n'a pas le même profil et qu'on ne fera pas le même cours avec une classe de même niveau le lundi matin à 8h et le vendredi soir à 18h.
Charlotte, à l'heure où le métier se dégrade de plus en plus, quelles étaient justement tes envies, tes motivations
Moi, je reste positive forcément parce que j'ai envie d'y croire, parce que j'ai envie d'apporter un petit peu ma petite touche quand j'aurai mes élèves aussi. J'ai des rêves aussi. et c'est aussi ce que les élèves, des fois, ils ont tendance à oublier, mais quand ils le réalisent, quand ils nous croisent à l'extérieur, ils disent « Ah, mais... vous avez une vie. » Et j'ai pu croiser quelques élèves, et c'est vrai finalement, il y a vraiment toujours ce rapport-là qui est... c'est très... Oui, forcément, ça m'attendrit. Et j'y crois. Et ensuite, j'ai des objectifs aussi avec les élèves. J'aimerais, en fait, leur permettre d'avoir des outils. En français, on n'est pas juste là pour étudier des textes, mais moi, ce que je voudrais, c'est vraiment leur donner des outils pour qu'ils aient une certaine forme de polyvalence qu'ils pourront utiliser dans d'autres domaines dans leur vie, et que même si ils ne vont pas continuer dans les études littéraires, ça leur serve et j'aimerais voilà qu'ils trouvent du sens dans ce que je veux dans ce que j'aimerais leur apprendre et pouvoir réinvestir ce qu'ils auront pu voir en classe et puis ensuite voilà même si on en parlait un petit peu voilà il y a parfois un petit peu des confrontations malgré tout on voit la reconnaissance des élèves quand ils ont compris quelque chose et ça c'est Ça n'a pas de prix, voilà.
C'est louable et ça fait chaud au cœur d'entendre quand même du positif. On n'a qu'une heure, donc on aurait pu parler des uniformes, des groupes de niveau. On pourrait pas faire beaucoup plus d'émissions sur ce sujet-là, mais on va essayer de finir sur du positif. Est-ce que vous voyez des initiatives positives émerger au sein de l'enseignement pour améliorer la situation ou pas du tout?
Bah, moi, je dirais que ce qui est positif, c'est que pour une fois, on a un arc syndical qui est plutôt unitaire. Donc, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience voilà, de l'attaque qui est faite sur le modèle d'école. Il y a aussi une forme de mobilisation autour des enjeux de service public. Donc, on va dire que je pense que les gens commencent à comprendre qu'on a besoin de. Enfin, que c'est ça qui fait notre bien commun, c'est les services publics. Donc, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'école, que ce soit, je sais pas, l'énergie. Enfin, en gros, on a besoin de ces choses-là parce que, ben, en fait, si on les a pas, on est livré à nous-mêmes, quoi. Donc, j'ai envie de dire, c'est une marque spécifique de la France depuis des années qui a eu justement des services publics ambitieux. On peut dire qu'on avait le meilleur santé du monde il y a quelques années. On avait un système éducatif, alors pas forcément le meilleur, mais un des plus performants quand même, enfin du moins on donnait des chances à tout le monde, et je pense que voilà, c'est ça qu'il faut vraiment retravailler et repenser, c'est vraiment s'attacher à ce qui fait, voilà, ce qui nous lie tous ensemble en tant que citoyens, et penser c'est vraiment ces services publics qui doivent être au service de l'intérêt général, et pas dans un marché d'établissement ou la concurrence du privé, tout ça, voilà, nous, enfin si on veut voilà, que tous les élèves aient accès à ce savoir émancipateur dont je parlais, la vraie question démocratique, c'est s'attacher au service public. Donc je dirais aux jeunes 1, syndiquez-vous, 2, le 25 on fait une manif à Lyon pour l'Académie de Grenoble pour défendre tout ça. Et ensuite quoi d'autre, et bah, allez voter le 9 juin et puis prochaines élections, alors pour des gens qui défendent les services publics, pas pour ceux qui font des selfies. Et puis voilà, peut-être changeons le monde ensemble.
Et vous, Sandrine, vous voulez dire deux, trois mots?
Oui, mot de la fin. Je tiens à peu près le même discours à mes étudiants. Et sur une note positive, là, j'en ai quand même qui sont admissibles dans le second degré. Et je les vois, bien sûr, avec la peur de ne pas réussir les dernières épreuves. Mais quand je vais les voir en cours, il y a une chose que je remarque tout de suite. Et je me dis, la relève est quand même là, malgré toutes les difficultés. Il y a une confiance qui s'établit entre les jeunes enseignants et les élèves qu'ils ont en responsabilité. Et c'est le plus important, en fait. Je ne vais pas aller pinailler sur le détail didactique. Bien sûr, on rééchange à ce niveau-là. Mais surtout, je vois qu'il y a une atmosphère de confiance qui se crée avec les enseignants et les élèves. Et sans cette atmosphère de confiance qui est la base, il n'y a pas de travail qui peut vraiment avoir du sens. Et je le constate chaque année. Pour moi, c'est mon plus grand plaisir de me retrouver dans les classes et voir faire mes jeunes collègues et de me dire « Ah, c'est bon, la relève est là malgré tout.
» Eva, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je remercie Louise Clerget qui m'a aidé à préparer cette émission et à Alice à la technique. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et à une prochaine.
L'apérophonie! Ouais, mais c'était quoi? L'apérophonie!
C'est quoi?
L'apérophonie!
Quoi?
Sur Campus Grenoble!
Sur quoi?
Sur le 90.8!
Ah, sur Campus Grenoble 90.8!
Oui!